Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce cinquième off-print, toujours les petits podcasts hors série de Blueprint. C'est Yann à la présentation, je pense que vous en avez un petit peu l'habitude, et avec moi aujourd'hui il y a Greg.
Bonjour, bonjour.
Greg Yenko de La Tête dans le Guidon, le podcast d'interview sur le cyclisme.
Oui, toujours une fois par mois sur Blueprint et sur cyclismerevue.be.
C'est magnifique. On bosse ensemble hein, sur la gestion de Blueprint semaine après semaine, également avec Franck, également avec Valocar, qu'on embrasse. Mais tu es également l'ancien présentateur, producteur, ou co-présentateur en tout cas, du podcast TVNR sur Radio Kawa.
Oui, qui a été toujours un plaisir à réaliser toutes les deux semaines. Je l'ai fait pendant 2 ans, hein, la co-présentation.
On y est tous un petit peu touchés.
Bah oui, moi c'était avec Joachim et Olivier. Puis toi, tu étais le précédent, oui. Notre prédécesseur.
Et j'ai succédé, je crois, à Alvin, qui lui-même avait succédé à Lou, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, c'est une chimère, hein, TVNR.
Non, c'est Doctor Who, le docteur change, mais le vaisseau est toujours là.
Mais oui, et donc on a arrêté malheureusement, je pense qu'on nous le réclame souvent hein, de revenir avec TVNR, mais voilà, ça demandait du temps qu'on n'avait plus forcément à consacrer toutes les 2 semaines à cela. Mais voilà, on est repopé une fois l'année dernière. Et on va dire que on ne sait jamais rester attentif à votre flux RSS si vous l'avez toujours. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les prochains mois.
Fantastique, très bien. Bah, le rendez-vous est pris. En tout cas, de notre côté, Greg, on va parler un petit peu de Late Show. Les Late Show, les Late Night Comedy Show aux États-Unis. Donc ces émissions qui passent tard, elles passent vers 22h, 23h, minuit, 1h du matin sur les networks, c'est-à-dire les chaînes qui partagent leur canal avec également une division régionale. Et différemment, voilà, selon la journée, le soir, il y a des programmes locaux ou des programmes nationaux qui passent dessus, des chaînes comme CBS, NBC, ABC, mais aussi des chaînes du câble qui, elles, sont des chaînes comme on en connaît nous, télé, un peu plus traditionnellement en France, en Suisse, en Belgique, etc. Avec des chaînes qui diffusent un peu H24 d'une manière ou d'une autre. Donc des chaînes à péage. Parfois même, d'ailleurs, ces late night shows ont fini par arriver sur les services d'abonnement de VOD en ligne, hein, type Netflix, de SVOD. Donc on a un petit peu de tout. J'aimerais qu'on commence, mon cher Greg, avant de faire un état des lieux un petit peu géographique de quelle show se trouve où. Simplement, qu'est-ce que tu regardes, toi ?
Alors, j'avoue que les late shows, j'y suis arrivé un peu sur le tard, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années, justement, avec l'avènement de YouTube, etc., où les late shows se sont mis assez vite hein, sur ces plateformes pour rendre gratuits des extraits, des interviews, etc. Et donc, c'est grâce à ça, vraiment, que je me suis intéressé aux late shows, parce qu'auparavant, j'avoue que tout ce qui était David Letterman, Jay Leno, etc., je connaissais seulement via des références pop culturelles comme les Simpsons, par exemple, qui en parlaient souvent. Mais donc voilà, c'est vraiment il y a une dizaine d'années que je m'y suis mis. Et j'ai beaucoup consommé pendant un moment. Et là, ça a été un peu plus ténu, on va dire. J'ai un peu moins regardé ces late shows, peut-être parfois par lassitude. Mais un late show que je continue à regarder vraiment quasiment toutes les semaines, en tout cas quand
religieusement.
Voilà, tous les lundis, c'est Last Week Tonight. C'est vraiment mon rendez-vous sur YouTube chaque lundi, parce que donc l'émission est diffusée le dimanche soir sur HBO. Mais moi, je la regarde le lundi matin sur YouTube, puisqu'ils mettent les 4/5 de l'émission.
Ils mettent
YouTube.
Le gros dossier, c'est composé d'un monologue, voilà. D'un dossier et de quelques séquences rigolotes entre les deux. Et généralement, le gros dossier est posté d'un coup sur YouTube. C'est probablement le late night qui est le plus facile à regarder via Internet sans passer par des méthodes de petits pirates. Hein.
Oui, clairement là-dessus, c'est assez malin hein, parce que clairement ils ont réussi dès le début à fédérer une grosse communauté, je pense internationale, au-delà des États-Unis, même s'il y a beaucoup de sujets plus américains, je trouve ces derniers temps, sur les 2 dernières saisons. Je pense que c'est aussi dû au fait du Covid, hein, clairement, qui a fait que il y a eu un certain recentrage sur les thématiques nationales. Donc voilà, ça c'est vraiment mon rendez-vous tous les lundis. Je continue à regarder les les monologues de Seth Meyers, donc les A Closer Look.
Oui, qu'on peut également récupérer en podcast. Si vous téléchargez le podcast Late Night Seth Meyers sur votre application de podcast préférée, gratuitement, vous pouvez avoir accès à un petit montage avec quelques interviews avec des invités qui reçoivent après ces monologues, mais aussi donc, le monologue en lui-même, A Closer Look. Voilà, le nom m'échappait pour une raison incompréhensible, et également des interviews backstage avec les invités en plus de l'interview que Seth en fait. Donc ça peut être un bon moyen de le rattraper. Le Daily Show fait plus ou moins la même chose avec Daily Show Ears Edition, donc Daily Show, l'édition des oreilles.
Voilà, et là aussi, même chose, je vous le conseille aussi de regarder sur YouTube, si vous avez cette occasion, si pour commencer, je dirais, la consommation de ces vidéos ou de ces extraits.
Peu ou prou, tous sont disponibles sur YouTube d'une manière ou d'une autre, c'est clair.
Oui, voilà, clairement. Donc, Closer Look, c'est des monologues de 10-15 minutes donc sur l'actu politique américaine, principalement. Évidemment, lorsque c'était la période Trump, il y avait beaucoup de matière, mais je trouve que malgré tout, il continue à avoir beaucoup de choses à dire, même avec la présidence Biden. Moi, j'aime toujours bien regarder ça de temps à autre. Je ne regarde pas forcément tous les jours, mais de temps à autre. Une autre chose que je regarde beaucoup, c'est les archives de Conan O'Brien. Je ne regarde pas forcément l'émission actuelle de Conan O'Brien sur TBS, mais il a mis, vraiment, c'était il y a 2 ans, en ligne un site qui s'appelle classic.teamcoco.com. Donc, c'est les Conan classiques depuis. Donc, en gros, c'est toutes ces archives qu'il faisait sur NBC ou sur TBS depuis 93. Oui. 93. Donc voilà, il a déjà fait énormément de choses. Conan, c'est certainement l'animateur de Late Show qui adore le plus voyager ou découvrir des choses, faire des sketchs à l'extérieur.
Et c'est probablement le meilleur comédien, c'est le meilleur humoriste, c'est celui qui dépend le moins de la politique, même s'il s'y est un petit peu mis ces dernières années avec la présidence Trump, parce que la situation a fait que c'est tellement grossier qu'ils s'y sont tous un peu donnés à cœur joint. Conan O'Brien est probablement, à mon avis, le meilleur comédien et la personne qui arrive le mieux à sortir justement des carcans du format. Moi, je me souviens par exemple à l'époque où il faisait Late Night, où il était au poste de Seth Meyers sur NBC. Il avait un truc, il l'avait fait 2 ou 3 fois dans l'histoire de Late Night, où en gros, il faisait diffuser une fausse alarme incendie en disant « Oh là là, il y a encore des problèmes techniques avec ça, on est désolé », et une discussion à se taper le cul par terre avec son régisseur qui intervient via le système de haut-parleur de la salle. C'est vraiment génial de prendre un truc aussi anodin et d'arriver à en faire un sketch. J'ai trouvé ça très malin. Il est très méta et personnellement, ça me plaît beaucoup.
Oui, bah, c'est ça, au-delà justement de ses visites à l'extérieur, ouais, il adore jouer avec son équipe, il adore aller dans les coulisses, justement, voilà comment nos auteurs travaillent, etc., mais il en fait des sketchs. Ouais. Il y a évidemment les sketchs avec Jordan Schlansky, qui est un de ses producteurs exécutifs.
C'est un des mecs de l'équipe de production, oui, tout à fait.
Voilà, qui joue aussi clairement un rôle de gars, de geek un peu... qui ne laisse rien paraître, qui est un gros fan de Star Wars, de la cuisine italienne, etc. Et donc Conan s'amuse à aller le titiller là-dessus, à aller dans un restaurant italien avec lui, d'aller visiter les studios de Lucasfilm avec lui, et ça donne des épisodes vraiment hilarants. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces classiques, même si ça a parfois 20-25 ans, ça reste très très bon. Et dernière petite voilà les vidéos un peu de Samantha Bee. J'étais un gros fan des deux premières saisons de Full Frontal, même 2-3 premières saisons. Je pense que c'est déjà 2016 que ça a débuté.
Tu t'en es lassé aussi ensuite?
Je m'en suis un peu lassé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, pareil, que ça ne se renouvelle pas trop. C'est-à-dire que j'aime beaucoup voir Samantha Bee énervée et dire des insanités sur les politiques actuelles. Mais voilà, à un moment... Je sais pas, j'ai pas cette impression que ça se renouvelle beaucoup. J'ai pas encore beaucoup regardé cette nouvelle saison qui a commencé il y a quelques semaines. Mais voilà, là-dessus, c'est plus quand ça pop sur YouTube. C'est intéressant, mais voilà, il y a des thèmes récurrents, notamment sur le féminisme et les droits humains, ça revient souvent. Et
c'est une des rares femmes à être animatrice de Late Night pour le coup, et elle fait partie des descendants du Daily Show de Jon Stewart, vraiment sur la tendance satirique à forte portée politique. Elle a d'ailleurs travaillé pour lui pendant de nombreuses années. Elle a été ce qu'ils appelaient correspondant, c'est-à-dire en gros chroniqueur, humoriste pour le show. Et oui, ça fait partie de toute cette écurie. On pense également à Stephen Colbert, on pense également à, techniquement, qui a pris le Daily Show après lui, Trevor Noah, évidemment. Pour la Suite Tonight, c'est John Oliver. Ils sont énormément à descendre de cette école Jon Stewart, même Larry Wilmore, par exemple, qu'on a eu, Jordan Klepper qui a eu son show, j'y reviendrai après, Hassan Minhaj qui a eu le sien sur Netflix. Enfin, ils sont extrêmement nombreux dans le côté satirique à littéralement être le Daily Show de Jon Stewart mais différemment.
Clairement.
Et pour le coup, avoir une femme, avoir une femme animatrice de Late Night, c'est suffisamment rare déjà pour être souligné alors qu'on est 40-50 ans après l'invention de la forme, quoi.
Oui, c'est ça. Ça a commencé qu'en 2016, alors que y a beaucoup de femmes très très drôles qui sont apparues, même dans les late shows. Mais en effet, la première host, première présentatrice, c'était Samantha Bee. Mais
si on remonte à Johnny Carson, qui est un peu, comment dire, la personne qui n'a pas forcément inventé le genre, mais qui l'a popularisé, on parle quand même d'un mec qui a commencé donc le Tonight Show starring Johnny Carson, c'est quand même 62. Donc c'est dire à quel point, c'est même plus que 50 ans pour le coup, de retard, entre guillemets, sur la question. Et vous allez revoir des extraits, par exemple, moi j'aime pas mal Letterman, j'aime bien son caractère, j'aime bien son humour, justement. Conan, c'est lui-même inspiré de Letterman pour l'humour un peu je m'en foutiste, un peu en auto-dépréciation. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants chez Letterman et chez Conan. T'as des interviews avec des femmes où il est, je veux pas dire qu'il est irrespectueux, mais en tout cas il reflète bien les valeurs de la société de l'époque, et c'était pas les bonnes valeurs à mon avis, des valeurs un peu machistes, des valeurs un peu avilissantes sous certains points vis-à-vis des femmes notamment, et je trouve ça excessivement dommage et je cringe en voyant ça, et c'est pas le bon cringe pour le coup. T'as des trucs de Letterman qui ont extrêmement vieilli, la logique elle-même,
au niveau des interviews, etc.
Au niveau de l'interview,
même certaines blagues du scandale
Lewinsky,
Clinton,
bien sûr,
c'est assez dramatique quand on regarde les archives.
Non, j'ai perdu le terme en tête, de considérer, en gros, je vais pas utiliser un terme grossier, vous mettrez le terme vous-même dans la tête, mais de se moquer et de dire des femmes, mon Dieu, peu de vertu, etc. C'est extrêmement bas, c'est nul, j'apprécie pas. Et pour le coup, beaucoup d'animateurs de Late Night, et je vais pas dire animatrice parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, à ma connaissance en tout cas, d'animateurs de Late Night s'en donnaient à cœur joie sur ce régime-là, et c'était vraiment la facilité. Alors certes, t'as 4 ou 5 shows par semaine qui durent une heure chacun, même en comptant la pub, ça reste beaucoup de boulot à faire,
c'est énorme,
mais ce serait quand même bien de pas se laisser aller à ce genre de truc. De mon côté, Last Week Tonight, évidemment, je regarde quelques sketchs de SNL quand il y en a un qui émerge, ou quand il y a vraiment quelqu'un qui me plaît beaucoup, genre s'il y a un John Mulaney qui host SNL, ok, je vais le télécharger, je vais le regarder. Mais
j'ai la même chose, c'est selon vraiment les sketchs qui peuvent arriver, mais il y a un moment où je regardais beaucoup tous les épisodes du SNL. Et puis à un moment, là aussi, même chose, mais après, il faut quand même imaginer la tonne de travail qu'il y a derrière pour faire en une semaine une heure d'émission avec des sketchs originaux, etc., jouer en direct, la majeure partie. C'est quand même énorme, mais voilà, la même chose, il y a des thèmes qui reviennent, et donc...
Il y en a pas mal qui tombent à plat, malheureusement, et je trouve qu'il y a des gens qui ont bûché ces SNL, qui étaient limités par la forme, et qui ont ensuite fait des choses qui étaient plus iconoclastes, plus drôles, parfois plus graves. Moi, je me souviens, par exemple, d'un Tim Heidecker qui était passé 2-3 fois, à côté dans SNL. Je sais plus si c'était Tim Heidecker ou si c'était... son nom m'échappe maintenant, mais je l'aime beaucoup. Il a fait un sketch comedy show sur Netflix. C'est Tim Robinson. Voilà, Tim Robinson était passé chez SNL de temps en temps, et il est clairement pas au niveau de What the Fuck qu'on peut le voir sur Netflix dans I Think You Should Live with Tim Robinson, qui a un sketch show comme ça. Donc honnêtement, malheureusement, SNL c'est un énorme mégaphone, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il se laisse vraiment pas aller parce que c'est NBC, parce que c'est
le network. NBC, un samedi soir.
C'est l'église en quelque sorte, et même s'il est question de faire des capans, il est aussi beaucoup question de faire redites et de faire de l'humour très centriste, c'est-à-dire de l'humour qui ne fâche personne. Et on en voit assez rapidement les limites, en fait. Il y a de temps en temps des trucs marrants, notamment quand c'est absurde. Moi, je me souviens par exemple de Haunted Elevator avec David S. Pumpkins, qui est une petite merveille que tout le monde a déjà vu probablement.
De l'homme à la citrouille qui danse.
Voilà, mais tout le sketch, en fait, structurellement, est génial. T'en as peut-être un par an comme ça qui arrive, et c'est toujours un petit délice quand c'est le cas. Je regarde Conan très ponctuellement, là aussi ça dépend vraiment de l'invité, parce que malheureusement, en plus avec la pandémie, je trouve que Conan a pas mal perdu en termes de rythme et en termes de justement dépendre au niveau absurdité. Il est plus dans on va faire un show sympa avec mon ami en directeur qui est son co-host, mais au-delà de ça, il y a pas beaucoup il y a plus autant le sel de l'époque aussi, parce que enfin il est X années après le début de sa carrière, quoi.
Mais je pense que Conan justement déjà c'est beaucoup, et a essayé beaucoup de se renouveler ces derniers temps, parce que son show finalement ne fait plus qu'une demi-heure actuellement. Par rapport aux autres shows qui font a priori une plus ou moins une heure, je dis une heure, mais c'est toujours une heure américaine, c'est-à-dire 40 minutes.
c'est du 40, généralement c'est du 41 minutes si c'est une heure, et si c'est d'une demi-heure, c'est du 21 minutes, je crois, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, voilà, plus ou moins.
Il y a un pourcentage de publicité.
Des coupures publicitaires américaines. Et donc, du coup, il a cherché, déjà, il a enlevé le traditionnel bureau qu'on voit dans tous les late shows, toujours l'animateur derrière son bureau avec le host, l'invité qui
il est sur une scène, là, pour le coup.
Qui est à gauche, oui, aussi, qui est à gauche dans un fauteuil, ou à droite, ou à sa droite, plutôt. Alors, là, dans la dernière mouture de Conan, ils sont tous les deux dans un fauteuil. Tu vois qu'il veut faire plus une sorte de discussion plus qu'une interview, mais en effet c'est assez bancal, je trouve, ce format là et clairement tu sens qu'il est plus aussi motivé par l'idée de faire un late show traditionnel.
Il est plus que dans l'ironie, ce qui est dommage.
Oui, voilà, par exemple je trouve qu'il s'amuse beaucoup plus dans son podcast Conan Needs a Friend, donc maintenant qui est toutes les semaines. Ça aussi c'est quand même un boulot malgré tout, même si on sent que
il y a une équipe de prod derrière qui lui bloque les invités,
clairement aussi, voilà.
Il fait pas tout le podcast lui-même, il discute aussi avec d'autres personnes avant et après, enfin c'est son podcast, mais techniquement c'est plutôt le podcast avec Conan dedans, tu vois, c'est faut plutôt le voir comme ça, tu vois. C'est pas lui qui a pris un micro et qui a fait oh là là, je vais apprendre à faire un podcast, etc. non, c'est une société qui vend de la pub. Qui vend de la pub dans le podcast, qui a organisé ça pour lui quand même, faut le préciser, quoi.
Non, c'est sûr, mais tu sens qu'il s'amuse, même justement, même quand il doit faire la pub, etc. Tu sens qu'il s'amuse plus que dans certains late shows, dans certains numéros de late show de ces derniers mois.
C'est vrai.
Mais voilà.
Enfin, c'est mon impression. Voilà.
On va s'arrêter ici avec Conan quand même.
Mais on l'aime.
Sinon... Mais on l'aime, clairement.
On l'aime, Conan. J'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux. Je vais juste lister tous les late shows que je crois être actuellement en production. Et tu vas me donner un petit peu tes perspectives dessus. J'ai également les miennes. J'ai deux grandes constatations. Alors, on va commencer avec les grands titulaires. Hein. The Tonight Show with Jimmy Fallon, ça c'est sur NBC. The Late Show with Stephen Colbert, ça c'est sur CBS. Plutôt A Late Show, ils ont renommé le truc pour la pandémie tant qu'ils sont pas vraiment en public. Late Night with Seth Meyers. The Late Late Show with James Corden. Conan. De Conan.
Tout simplement.
Jimmy Kimmel Live, là on est sur ABC, la chaîne qui appartient à Disney. Saturday Night Live, de nouveau sur NBC une fois par semaine le samedi. The Daily Show, satirique, présenté par Trevor Noah. Last Week Tonight. Full Frontal with Samantha Bee, dont tu parlais tout à l'heure, qui est sur TBS, la même chaîne que Conan, et qui est une fois par semaine. Little Late with Lily Singh, ça c'est après Seth Meyers. Et Lily Singh nous vient pour le coup de YouTube. Oui. Donc c'est une youtubeuse.
C'est assez surprenant.
Je crois même que c'était une star de soit de Musical.ly soit non, je pense que c'était Musical.ly ou un réseau pré-TikTok. Elle était plutôt connue là-dessus, ensuite elle a migré sur YouTube et puis ensuite elle a été scoutée par NBC.
Oui, c'est ça.
Le très polémique pour malheureusement pour lui de très mauvaises raisons parce que ça peut lui arriver de raconter des grosses conneries. Real Time with Bill Maher qui a tendance parfois à être légèrement islamophobe, donc oula.
Oui, c'est... limite, ça pourrait être le late show de Fox News, mais bon.
Ouais. Tu sais que, enfin, oui, en même temps, il déteste. Enfin, il aime pas du tout les républicains. Mais c'est un des derniers démocrates de droite, je pense, aux États-Unis, Bill Maher.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est très dans la critique, dans la polémique et.
C'est un conservateur qui est pour la weed. Tu vois ce que je veux dire, c'est un conservateur qui est pour la weed et qui a mis X millions sur la candidature d'Obama, enfin plus de millions ou des centaines de millions en tout cas, mais qui a fait une généreuse donation au Parti démocrate quand Obama était candidat. My next guest needs no introduction. Ça, c'est Letterman qui, malgré son grand âge, continue de faire des interviews. C'est ça sur Netflix.
Sur Netflix,
ouais. Wilmore, c'est Larry Wilmore qui avait fait un autre late night sur Comedy Central. Et qui se l'est fait canceled parce que ça rapportait pas assez d'audience. Et qui a également, je crois, bossé sur la série Blackish. Et qui a maintenant son propre late night sur Peacock, qui est le service de streaming de NBC. Donc la même maison que Jimmy Fallon, la même maison que Seth Meyers, la même maison que Lily Singh. Et enfin, The Amber Ruffin Show. Amber Ruffin, donc, qui est une ancienne et même actuelle encore comédienne et autrice chez Seth Meyers, qui a également maintenant son propre show qui est hebdomadaire, et que vous pouvez aussi retrouver sur Peacock, et également, comme tout le reste, des extraits sur YouTube. Encore, je crois que pour Wilmore, c'est le plus difficile de trouver des extraits sur YouTube, évidemment, Letterman aussi, puisque David Letterman... n'a pas un back catalogue sur YouTube parce que de son temps ça se faisait pas, et de deux, son truc actuel, bah, il est derrière le paywall de Netflix évidemment. Mais deux observations. D'une part, encore très peu de femmes et encore très peu de personnes non blanches dans cette liste.
Ici, oui, il y a Lily Singh, Trevor Noah et Larry Wilmore et Amber Ruffin, oui.
Voilà, et quand c'est le cas, ça a plutôt tendance à être hebdomadaire, il y a plutôt tendance à avoir moins de moyens, ça a plutôt tendance à être plus court. Les places, on va dire, vraiment privilégiées en termes de late night, donc The Tonight Show sur NBC, The Late Show sur CBS, et la case de Jimmy Kimmel Live qui a toujours été à Jimmy Kimmel, pour le coup, enfin, avant c'était de l'info, quoi. Avant c'était un magazine type 60 Minutes, je crois que c'était Deadline ou un truc comme ça, pour le coup, ben, c'est des mecs blancs. C'est des mecs blancs hétéros, enfin, c'est littéralement l'héritage complet de la télé des années 60. Faites un peu différemment, les gens ont un parcours de comédiens, d'humoristes différents, nécessairement, mais il n'y a pas beaucoup de diversité dans cette diversité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez criant quand on le voit ici. La deuxième chose que je voudrais noter, c'est malgré le fait que des petites émissions, bah, il en meurt assez régulièrement parce qu'on est encore dans un état d'expérimentation sur combien d'émissions satiriques on peut avoir, surtout après Trump, sur combien de formats comme ça peuvent vivre sur des canaux tels que Netflix, Peacock, etc. Donc il y a encore du mouvement de ce côté-là. Mais du côté des gros darons, on est sur un moment de stabilité qui va durer peut-être encore 10 ans. Avant qu'il y ait un nouveau renouvellement, avant que peut-être NBC finisse par se lasser par Jimmy Fallon. Ça peut-être même venir plus vite, hein, parce qu'il a vraiment perdu des plumes en termes d'audience face à Colbert et pendant toute l'époque Trump. De l'autre côté, j'ai l'impression que Colbert est là pour un moment. Je pense plus qu'il va y aller en mode jusqu'à la retraite. Je crois qu'il est parti comme ça. La question aussi, c'est un peu, est-ce que Myers et Corden vont faire jouer le côté un petit peu, bon, moi j'aimerais bien qu'on me donne le vrai grand poste à un moment. Et est-ce que ça va pas pousser les autres vers la sortie? Ça, c'est une question aussi. Un peu qui prendra leur place derrière. Le côté avancement de carrière, il a été source de friction dans le passé, notamment pour Conan, qui avait succédé à Jay Leno, exactement. Et Jay Leno l'a remplacé derrière. Enfin, c'était un tour de passe-passe incroyable.
Oui, je pense qu'il y a un documentaire sur YouTube à ce sujet, mais j'ai plus le nom et je suis
désolé. Il y a deux films et deux bouquins sur ces histoires, donc qui sont plus ou moins bien. Les bouquins sont intéressants. J'ai écouté le bouquin plus moderne sur l'histoire justement de Conan et ce tour de passe-passe en audiobook. C'était 14 heures absolument fascinantes sur le sujet. Je pourrais en parler ad vitam, mais c'est pas le but du podcast d'aujourd'hui. toujours est-il, donc oui, on est dans un moment de stabilité globalement. Ouais. Peut-être le prochain à partir, c'est probablement Conan. Vu son âge et vu
je pense clairement,
la case dans laquelle
ils ont... Je ne suis même pas sûr, est-ce qu'ils vont vraiment chercher quelqu'un pour le remplacer chez TBS, dans le sens où Conan incarne cette case. C'est pas comme justement le Tonight Show ou le Late Show, où ce sont des programmes qui se sont inscrits dans la durée, qui, il est vrai, à l'époque, étaient incarnés par leur présentateur. Maintenant, en effet, il y a un peu plus cette solution de remplacement au fur et à mesure. Mais je me demande vraiment ce qu'il en sera peut-être pour Conan. Mais oui, je pense Conan ou Jimmy Kimmel même aussi. Je ne sais pas s'il va encore beaucoup durer. Enfin, c'est-à-dire que je pense que c'est celui qui peut le plus vite
dégager.
Quitter. Ouais.
Parce que la chaîne en elle-même n'a pas vraiment, à part lui, n'a pas une culture du late night et donc pourrait très bien remplacer ça par autre chose.
C'est très différent. Ce qui est très différent, par exemple, du Tonight Show et du Late Show, vraiment chez NBC et CBS, c'est pas des émissions de prime time, mais c'est quasiment la même chose. C'est quand même des émissions du lundi au jeudi. La plupart du temps, c'est souvent du lundi au jeudi. À 22, 23h ou 22h, des émissions qui sont suivies par des millions de personnes. Et
qui sont de plus en plus rattrapées sur Internet, il faut le préciser. Hein.
Important. Clairement. Et il y a eu donc en effet ce renouvellement il y a 5-6 ans.
C'est ça.
Où donc il y a eu les départs de David Letterman.
Mm-hmm. Oui.
Il y a eu Jay Leno aussi qui était parti aussi.
Qui a fini par partir plus tôt, je crois. Hein. Fallon est arrivé sur la case avant.
Oui, c'est ça. Et donc, Fallon est arrivé un peu presque parce que il était de toute façon à la case suivante.
C'était The Hot New Thing, hein, c'était le mec le plus populaire des deux à ce stade-là. Leno était déjà dépassé. Leno était dépassé en tout cas auprès des jeunes, qui a un public vraiment important, en tout cas les jeunes 15, 20, 30 ans pour cette case-là. C'est généralement comme ça que les programmes sont jugés par rapport à l'attractivité de ce public, parce que c'est un public qui dépense, parce que c'est un public qui est intéressé par le type d'invités un peu pop, un peu star, qui sont au centre de ce genre d'émission, au-delà des monologues. Et du coup, c'était tout à fait naturel que Leno, un peu à la manière d'un Julien Lepers, qui était certes populaire avec un certain public plus âgé, finisse par partir, lâcher la rampe. Et de l'autre côté, qu'un certain Jimmy Fallon, qui était littéralement le mec le plus populaire, que tout le monde aimait, c'est plus vraiment le cas maintenant, mais que tout le monde aimait et que tout le monde trouvait fond d'art avec ses jeux débilos, son humour, on va dire, à bien plaire pour tout le monde, son côté genre idéal, c'était tout à fait naturel pour une chaîne comme NBC de l'avoir en figure de proue, non seulement du line-up de Late Show, mais de la chaîne en elle-même. Ils ont même au Parc Universal, dans je ne sais plus quelle ville, aux États-Unis, une attraction.
Orlando.
Tonight Show, Jimmy Fallon.
Oui, clairement. C'est dingue de se dire ça, enfin, d'avoir une attraction pour une émission qui, bon, c'est pas forcément celle que tu imagines le plus d'aventure ou de.
Voilà, c'est.
D'amusement.
Le titre en anglais, c'est Race Through New York, starring Jimmy Fallon, trademark. Visiblement, Jimmy Fallon est sous trademark, ou en tout cas, l'expression starring Jimmy Fallon est sous trademark.
Ouais, voilà.
Ce que je trouve assez délicieux.
Mais clairement, ici, je trouve que dernièrement, on a un peu ces deux tendances. Une tendance un peu jeu, amusement, et on s'inquiète plus trop de l'actualité avec Jimmy Fallon, James Corden, parce que James Corden, c'est clairement Jimmy Fallon bis, à mes yeux. Conan et un peu Jimmy Kimmel, c'est-à-dire que Jimmy Kimmel s'est un peu plus politisé pendant l'ère Trump parce qu'il était directement touché, je pense, par cela. Avec ses enfants, etc. Il a fait beaucoup de monologues assez émouvants à ce sujet.
Oui.
Et de l'autre côté, une politisation encore plus grande avec Colbert, avec Myers, avec, Last Week Tonight, Samantha Bee, etc.
Pour certains d'entre eux, il y a vraiment une flandérisation, à mon avis, un côté assez caricatural. Et c'est ça. C'est pour la raison pour laquelle j'ai décroché de pas mal d'entre eux. C'est le côté vraiment, OK, on est vénère de temps en temps. John Stewart pouvait l'être, etc. Et John Stewart, encore une fois, agit volontairement ou involontairement comme modèle ou comme réflexion ou comme chose par rapport à laquelle tu te positionnes, soit en te différenciant, soit en étant comme lui, ou comme ce qu'il a fait, comme son héritage de plus de 10 ans de Daily Show. J'ai l'impression que certains en ont retenu que l'outrage, que l'énervement, que les grands cris, et pas vraiment le reste. Et je trouve ça, et pas le côté un peu plus guignol, mais guignol intelligent, guignol avec un propos derrière, ridicule, mais le ridicule fait réfléchir. Et c'est ça en fait que je trouve. En fait, d'une certaine manière, les late night satiriques se sont un peu twitterisés. C'est un peu. Oh là là. De quoi on n'est pas content aujourd'hui, quoi. Et ok, il y a plein de trucs desquels pas être content. Je suis tout à fait d'accord. Mais si t'es pas content tout le temps, H24. Et je suis pas en train de dire, mon Dieu, faut faire du positif, faut faire justement du Jimmy Fallon, des bonnes ondes, etc. Je suis pas non plus dans le délire complètement inverse, mais il faut mettre un peu d'eau dans son vin et il faut pouvoir se moquer, satiriser autrement que en fronçant les sourcils.
Non, clairement, il y avait des séquences de temps à autre, notamment chez Colbert, qui pouvaient être intéressantes à ce niveau-là et qui ont peut-être aussi un peu disparu avec. Il ne faut pas négliger clairement la pandémie qui a fait qu'il n'y a plus de public, que les invités le plus souvent sont via Skype ou autre.
Mais le délire, par exemple, de faire semblant d'être candidat à l'élection présidentielle ou de faire un vrai faux et apparemment vrai super PAC, c'est-à-dire en gros un parti politique fantôme dans lequel tu mets du pognon pour pouvoir dépenser en publicité politique pour soutenir ton candidat et du coup tu dépenses de l'argent pour ton candidat mais en même temps c'est pas directement les finances de ton candidat donc tu fais ce que tu veux. Ça c'était super intelligent parce que par le ridicule il montrait un propos sur ce genre de structure, sur les rapports de pouvoir, sur les rapports de force, sur les moyens, sur les décisions de la Cour suprême, etc. etc. En faisant ça, on parlait de quelque chose d'autre. Peut-être qu'ils estiment avoir trop usé cette corde. Peut-être qu'ils estiment que tout a été fait dans le domaine et qu'on peut plus le faire aujourd'hui. Moi, je trouve que ça manque.
Non, mais je ne sais pas s'ils vont forcément revenir à ça. Clairement, il y a une évolution qui s'est faite. J'ai pas l'impression que. En tout cas, il faudrait trouver quelque chose pour se renouveler à ce niveau-là, ça c'est clair, parce que j'imagine qu'on doit pas être les seuls à qui ça devient un peu lassant. Cette
mécanique.
C'est pas cette petite. Oui, voilà, plus cette mécanique. Mais mon cher Yann, il y a d'autres late shows qu'on a appréciés par le passé, mais qui ont malheureusement disparu depuis lors. Toi, qu'est-ce qui te manque, entre guillemets, que ce soit sur les chaînes de télé ou sur les plateformes? Parce que, comme on a dit, il y a eu beaucoup d'émissions qui se sont créées sur les plateformes de SVOD.
Et surtout beaucoup qui se sont créées et qui sont mortes direct derrière. Netflix, c'est vraiment l'ultimaire. Du fait, Netflix, c'est « On va faire un late show satirique qui va tenir, regarde !» Et ils ont tout lancé contre le mur. C'est incroyable. La peinture, l'huile, l'eau, etc., les pinceaux, tout. Ils ont tout lancé du même moment et ils ont arrêté la plupart des trucs aujourd'hui. Il n'y a que, techniquement, Letterman qui a survécu, en gros, à la purge. Faut être
clair. Oui, encore parce que c'est Letterman.
Parce que c'est Letterman et parce qu'il n'a pas un planning de production énorme aussi.
C'est vrai.
Ils l'ont fait genre peut-être 5-6 par an, quoi. Donc, edgy! Non, voilà. Ça se prête peut-être un peu mieux d'ailleurs à la distribution sur Netflix et au public de Netflix d'ailleurs. Qui sait? Mais Patriot Act par Hassan Minhaj, qui est le meilleur compromis entre le Daily Show et la Week Tonight, à mon avis, qui arrive à la fois à être didactique sur ces sujets et en même temps à s'en moquer et en même temps à proposer une écriture et un ton qui est peut-être plus jeune sans faire faux jeune. Je trouve que le Daily Show de Trevor Noah tombe dans l'écueil de pas mal faire faux jeune ou faux culture internet. C'est un des trucs qui m'a le plus repoussé sur le Daily Show de Trevor Noah, pour le coup, c'est le côté vraiment, how do you do fellow kids, how do you do fellow gamers ou fellow connectos de l'internetas.
Et les mêmes, vous aimez les mêmes.
Les mêmes, voilà, vous aimez quand on se moque des codes YouTube, mais sans vraiment le faire bien. Oui, bah n'importe qui, y compris sur YouTube, se moque des codes YouTube, donc va falloir se lever un petit peu plus tôt pour faire quelque chose d'original et de drôle, hein, merci les mecs. Donc c'est un peu triste, quoi. Mais Patriot Act, c'était vraiment très bien, à mon avis. Il y a d'ailleurs plein de saisons qui sont encore disponibles sur Netflix, donc allez-y. The Break with Michelle Wolf. Michelle Wolf était une comédienne sur chez Seth Meyers. Et bizarrement, très clivante, hein. Elle a un humour, elle a une élocution qui en énerve certains. Moi, je la trouvais assez drôle. Et qui a pris vraiment la tendance qu'elle n'avait pas véritablement chez Seth Meyers, qui est d'être très politique. Assez féministe également. Elle a tellement énervé le monde que la seule fois où elle a hosté le dîner des correspondants, donc le dîner politico-journalistique une fois par an autour de la Maison Blanche, elle s'est littéralement fait dégager ou spier par tout le monde, ce qui signifie qu'elle a fait un très bon travail.
Je crois que c'était la première année de Trump, non?
Oui, la société des correspondants, c'est-à-dire un truc du style plus jamais on invite, pas plus jamais on invite un humoriste, mais en gros on va mettre un moratoire sur inviter des humoristes à cette occasion-là parce que oulala, on regrette. Elle avait fait, à mon avis, un excellent job. C'était parfaitement payé, l'administration Trump et notamment son bras communicationnel. Et dans The Break, tout n'était pas génial, mais elle a été arrêtée très vite. Et le potentiel qu'il y avait et qui se voyait notamment dans certains sketchs qui étaient préparés, parce que c'était ça qui était le meilleur en fait, les sketchs filmés en dehors du plateau. Ça, il y en avait des extraordinaires. Le sketch sur la section opinion du New York Times est génial. Il est génial, ce sketch. C'est une des meilleures satires médiatiques qu'on ait vues aux États-Unis sur les années 2010. Il est fantastique. Je le mettrai en lien dans la page de l'épisode. Je l'aime beaucoup. Bon.
Je la connaissais que via son dernier special sur Netflix aussi, je crois que c'est Joke Show.
C'est possible.
Où c'est aussi beaucoup de blagues sur l'égalité homme-femme, etc. Et c'est très, 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 très bon. Ouais. À ce niveau-là.
Et pour le coup, non, je mettrai le lien parce que ça vaut le coup. La dynamique Daily Show Colbert Report de l'époque, c'est ça qui m'a branché au late night. Donc plutôt le côté satirique à la base. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup laissé le temps à The Opposition with Jordan Klepper, qui n'était pas parfaite, mais qui allait de mieux en mieux et qui était une bonne satire, non pas justement des éditorialistes républicains sur Fox News comme l'était Colbert Report et qui a duré pendant un bon moment, mais qui était plus une satire sur la conspi. Oui. Et sur la conspi sur internet, des trucs style comment il s'appelle, déjà InfoWars, donc comment il s'appelle ce triste sire qui fait InfoWars,
oui, je vois le monsieur tout énervé, Alex Jones,
voilà, alias un bœuf, parce qu'il ressemble globalement à une pièce, une belle pièce, hein. J'ai envie de l'arroser de sauce au poivre et ça a l'air délicieux. Mais oui, donc c'était une excellente caricature de cela, à mon avis, même s'il s'en défendait également une caricature de l'alt-right, hein, c'est-à-dire de l'extrême droite américaine, vraiment, vraiment, vraiment cool. Je trouve qu'ils n'ont pas laissé le temps non plus à l'émission qui a précédé The Opposition, qui était The Nightly Show, de Larry Wilmore, justement, qui était en gros un late night avec une partie monologue qui rappelait un petit peu le Daily Show, une partie débat qui rappelait beaucoup plus ce que fait Bill Maher sur Real Time chez HBO, et avec énormément de personnes non blanches, que ce soit lui-même évidemment en tant que host, mais aussi ses chroniqueurs, mais aussi ses invités. Et ça, c'était pas mal intéressant. Et enfin, Jim Jefferies, que j'avais oublié, merci Greg de l'avoir noté. Jim Jefferies et son Jim Jefferies Show, qui parfois est un peu trop graveleux à mon goût, je dois le préciser aussi, arrivait quand même à avoir un ton et avoir des sujets et avoir une approche qui était suffisamment différente des autres à une époque où il y avait vraiment une inflation du nombre de late night satiriques. C'était assez rare pour être souligné. Jim Jefferies, c'est un comédien australien et je trouve qu'il faisait un excellent job malgré encore une fois un humour parfois un tout petit peu trop graveleux par rapport à ce que j'apprécie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce que je regrette. De ton côté?
Moi, j'avais noté aussi Jordan Klepper, The Opposition. J'étais un peu étonné que ça soit annulé aussi rapidement. En effet, je pensais tout au bout d'une saison et demie ou une saison seulement. Ouais. Que ça s'est arrêté.
Non, mais Comedy Central était vraiment trigger happy. Ils en ont fait un autre ensuite avec Jordan Klepper qui s'est juste appelé Klepper, et qui était lui qui parlait à des gens dehors, donc c'était vraiment ce qu'il faisait pour le Daily Show à l'époque.
Oui, c'est ça, voilà.
Et qui... ça n'a pas tenu très longtemps, et voilà.
Mais c'est-à-dire que c'était un autre rôle un peu qui était intéressant pour Jerry Klepper, qui en effet on le connaît pour aller voir des républicains, ou en tout cas des partisans républicains, et les mettre devant leurs contradictions. Mmh. Et donc il a un talent de la répartie pour ça assez dingue. Mais voilà, le concept de The Opposition autour du conspi, j'ai
puis de l'appeler The Opposition, quoi, de l'appeler l'opposition alors que tu mimiques les conspis, c'est génial comme parti pris, quoi.
Oui, ben voilà, c'est vraiment reprendre tous les codes et les retourner contre ces personnes, c'était très chouette. J'avais noté aussi deux autres émissions, où, en effet avec un humour un peu graveleux, j'avoue que je suis un peu plus client de ça. Donc Jim Jeffries, comme tu le notais, qui avec des sketchs vraiment top. Je me souviens aussi qu'il avait fait notamment une sorte de débat avec tous des représentants des différentes religions, pour évoquer un peu tout cela et les mettre aussi devant leurs contradictions, mais c'était pas fait avec malveillance. Il y avait malgré, c'était vraiment ce côté humour. Ouais. Voilà, on en rigole et je trouvais que c'était très très piquant mais très fin malgré tout. Et j'aimais beaucoup le podcast qui était fait en plus où malheureusement, à la fin, en fait, ils ont arrêté le podcast et ils remettaient juste l'émission télé en podcast audio. Oui. C'était pas très chouette. Mais au début, ils apportaient vraiment un réel complément sur comment ils avaient tourné, comment ils avaient fait les reportages, etc. Donc, c'était très, très chouette. Et la dernière émission que je regrette un peu, c'était Not Safe with Nikki Glaser, qui était sur Comedy Central en 2016. Donc là, c'est beaucoup plus une émission à sketch. Nikki Glaser, c'est une humoriste à l'humour un peu trashouille, hein, qui parle beaucoup de sexe et de relations hommes-femmes, qui aime bien justement choquer les hommes parce que oh là là, on parle des règles et du sexe, oh là là. Mais c'est toujours très bon. Moi, j'adore vraiment cette fille. Je vous conseille ses specials sur Netflix. Et c'est son émission à sketch, donc Not Safe with Nikki Glaser, ça reprenait un peu l'idée de ses specials, mais avec des très gros moyens de production. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle a arrêté au bout d'une seule saison, que Comedy Central c'est du nom, mais c'est bon, on le sait. Parce que j'ai lu des interviews où elle disait qu'elle était prête à reprendre le flambeau si une chaîne ou un service SVOD était intéressé, donc je serais ravi si elle revient sur le devant de du petit écran.
Chez Art19, Jim Jeffries a un nouveau podcast qui est actif, qui sort tous les mardis matin, si jamais ça t'intéresse. J'ai lu très brièvement le pitch. Il s'agit donc, lui, alors, un peu à la Conan, hein, entouré d'une petite équipe, où en gros, ils ont un sujet par épisode et ils racontent ce qu'ils savent pendant cet épisode-là. Et j'imagine évidemment que c'est rigolo parce qu'il doit raconter des bêtises de temps en temps. Humour, gag, drôlerie, gaudriole, les amis. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a un podcast depuis quasiment un an. Et l'ancien podcast, donc celui du Jim Jeffries Show, est toujours disponible en ligne si jamais vous voulez replonger là-dedans. Évidemment, ce ne sera pas forcément timely, ce ne sera pas forcément contemporain par rapport à tout ce qui se passe, mais ça peut valoir le coup, si vous voulez exhumer un petit peu ça, de vous y replonger. Ok, très bien, bah merci pour tes trois exhumations. Enfin, avant qu'on se quitte, ou quelle structure ou quelle émission, mais généralement, qui mériterait selon toi un spotlight et des moyens? Bref, qui mériterait d'hériter d'une case de Late Night?
Alors, j'avoue que par rapport à toi, j'ai pris des personnes qui sont quand même assez connues.
Je suis allé en mode full edgy, Yann Corr. Non. Et puis en plus, parce que, en tout cas pour le second, je suis extrêmement d'accord avec toi. Donc, en théorie, en tout cas.
Ça va. Donc moi, j'ai pris vraiment, en effet, des humoristes qui sont déjà assez installés, que ce soit sur les planches aux États-Unis ou sur Netflix, ce genre de choses. Donc je commence avec Bill Burr, qui est toujours très énervé, mais qui a des colères saines, je trouve. Il avait déjà fait une sorte d'émission où il allait Il allait voir des... Enfin, ou c'est un special ? Non, je pense que c'est plus un special, pardon, je confonds. Où il avait été faire ses sketchs, enfin, son stand-up, plutôt, devant des prisonniers. Et je pense que c'était... Je vais regarder. Oui, c'est sur Netflix. Que vous pouvez aller voir ça, donc Bill Burr, B-U-2-R. Il avait été voir donc des prisonniers jouer son stand-up comme ça devant eux. Et c'est très drôle de voir les réactions en fait par rapport à ces sketchs où bah, il joue aussi avec le public. Hein, il s'amuse aussi avec ça. Et donc j'aimerais bien voir un late show avec lui. Je pense que au niveau justement colère, il y a de quoi faire. Peut-être que ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec des émissions où les animateurs s'énervent un peu trop sur tout. Et donc ça peut être dérangeant à un certain point, mais ici je me dis qu'avec ce comédien là ça peut très bien le faire. Et le deuxième, c'est John Mulaney, il a un côté jeune premier qui va aller gagner des thunes à Wall Street, mais il est incroyablement drôle.
C'est un extrêmement bon comédien de stand-up, c'est probable, enfin à mon avis c'est probablement un des meilleurs aujourd'hui. Mais je me demande ce que ça donnerait en fait de l'étaler sur un truc quotidien et d'être dans cette posture-là qui n'est pas nécessairement la sienne justement en termes de d'humour et de stand-up, celle d'un comédien de late night. Ça pourrait bien marcher, mais il y a le risque de m'épuiser le John Mulaney et j'ai pas vraiment envie que ça arrive en fait.
Oui, je peux comprendre. Ici, je l'imaginais plus dans une émission, j'allais dire une émission à sketch.
C'est-à-dire, une émission à sketch hebdomadaire, quoi.
Voilà,
une sorte
forcément...
de mini SNL.
Ouais, par exemple, pas forcément s'énerver tous les jours pendant une heure, mais faire des sketchs chaque semaine pendant une dizaine d'émissions par saison, une quinzaine d'émissions.
En attendant, il apparaît de temps en temps faire des sketchs chez Seth Meyers, notamment dans la pandémie.
Oui, c'est vrai, il est venu de temps en temps. Donc voilà,
qu'il a été en rehab, MDR. mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, malheureusement. Parce que les comédiens américains ont parfois des problèmes. On ne parlera pas de Jimmy Fallon, par exemple.
Substance abuse. En tout cas, on leur souhaite bon rétablissement à toutes et tous. De mon côté, j'en cite deux. Alors, un qui est collaborateur de Tim & Eric. Si vous connaissez Tim & Eric, donc vraiment le côté humour absurde, notamment, c'était pas Comedy Central, c'est Adult Swim. Nick Lutzko publie des petites vidéos sur YouTube, fait pas mal de chansons, d'ailleurs, de chansons filmées, très drôles, et je trouve que ça aurait complètement sa place en termes justement de sketch show. Donc ça d'une part, Nick Lutzko est juste drôle, je vous mettrai un lien vers sa chaîne YouTube. Et le deuxième que je veux recommander, c'est pas une personne, c'est un groupe qu'on connaît sous leur nom de scène qui est Wham City, ou sur leur nom plus de prod audiovisuel qui est AB Video Solutions. Rien à voir avec les chaînes françaises AB1 d'ailleurs, je tiens à le préciser.
Ah oui, les mystères de l'amour, je connais.
C'est ça. Non, par contre, tu connais peut-être la case de Adult Swim qui passe à 4h du matin, les infomercials.
Oui.
Et eux, en gros,
je
c'est...
Je ne regarde pas à 4h du matin.
C'est ceux, non mais tu peux les revoir sur YouTube, c'est eux qui ont fait probablement les pires, mais les meilleurs infomercials, type unedited footage of a bear. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà ? Il y avait. En gros, c'est même pas complètement de l'humour, mais c'est vraiment du surréel, souvent horrifique. Parfois évidemment avec une grosse dose d'humour ou de recul ou de décalage. Ils ont pas mal fait par exemple de théâtre en direct sur Adult Swim et du théâtre interactif parce que les gens pouvaient appeler et en gros l'idée c'est que ça devenait une sorte d'ARG et en même temps ça devenait un jeu interactif. Ils sont à fond en gros. Wham City, c'est ma seule caution art moderne, art moderne et art interactif si tu veux. Et je les aime beaucoup et prendre une forme aussi convenue qu'un late night, que ce soit un late night satirique ou plus un late night humour et star, et mettre ces agents du chaos complet là-dedans, je trouverais ça génial parce que ce serait un terrain de jeu absolument extraordinaire pour eux. C'est en tout cas mon point de vue. J'aime beaucoup Wham City. C'est vraiment extrêmement perché. Si vous voyez des extraits de spectacles de Wham City sur internet notamment, je vais vous mettre un lien vers le site AB Video Solutions sur internet. Mais faites une recherche Wham City sur YouTube. Je vais littéralement faire ça en fait. Je vais littéralement vous mettre en lien youtube.com/recherche Wham City. Wham City Comedy. Non, il y a une chaîne YouTube quand même, je vais la mettre. Voilà.
Okay. Est-ce que ça se rapproche du coup de plus de du Eric André Show?
Oui,
qui est pas forcément à late night,
mais c'est moins lisible. Night, c'est encore plus absurde et compliqué que ça pour le coup. Donc il faut il faut vraiment y aller quoi. Peut-être le meilleur point d'entrée, je pense, dans Wham City, c'est the Children of the Mirror, qui est un mockumentary, donc un faux documentaire sur une secte, mm-hmm. Qui a été diffusé par IFC. Je mettrai aussi le lien dans c'est 6 vidéos de 5 minutes, donc ça se consomme très rapidement. Et c'est en gros les différents membres de la secte qui vous apprennent différentes règles de cette même secte. Donc la première, c'est créativité. La deuxième, c'est l'altruisme. La troisième, c'est la propreté. La quatrième, c'est l'eau. La cinquième, c'est la propreté de... Et la sixième, c'est la télépathie interstellaire pour la communication.
D'accord.
Donc, ça promet. Regardez-les dans l'ordre. C'est une aventure. Allez-y. Ça fait un tout petit peu peur sur la fin, mais pas tant que ça. C'est beaucoup plus des effets de manche que véritablement quelque chose de gore ou quoi que ce soit. Donc, si vous flippez facilement, ne vous inquiétez pas trop. Bref, j'aimerais vraiment voir ce genre de personnes sur un format aussi convenu. J'aime bien, personnellement, faire péter les trucs et ce serait une bonne manière de faire péter quelque chose. Voilà, c'était notre petit point de vue sur les late shows. Greg, on peut te suivre sur Twitter, @GregEnco.
Oui, GREGIENCO.
On l'a dit, on retrouve ton podcast La tête dans le guidon sur blueprint.pm et sur cyclismerevue.be, les archives de TVNR dans votre application de podcast préférée sur radiokawa.com. Et puis on se dit à bientôt.
On se dit à bientôt de toute façon.
Allez, bye bye.
Ciao ciao.